Chapitre 79. Au-dessus de Makou, Iran. Ils prirent le temps d'une lessive et enfilèrent leurs vêtements trempés. Il n'y avait presque pas de vent. Le soleil allait se charger de les sécher en quelques heures. Le temps d'arriver à Makou, ils seraient présentables. Le champ de pierre défilait, interminable. Ils marchaient sans effort, laissant la pente les entraîner. Il y avait quelque chose d'incongru entre leurs vêtements dégoulinants et la montagne sèche, grise à l'infini, sans autre végétation que de rares arbustes recroquevillés comme des insectes morts. Les gouttes ruisselaient sur la peau de Cécile. Douce, fraîche, elle appréciait. Elle repensait à leur bain improvisé, au joli corps musclé de Zach. Rien à voir avec ceux, maigres ou bedonnants, des chercheurs universitaires croisés dans les piscines d'hôtels à l'occasion de colloques internationaux. L'eau limpide n'avait rien caché de l'anatomie de Zach. Cécile avait pu se livrer à une évaluation objective, bien davantage que lors de la fameuse nuit du Falcon 2000. Des sensations inédites agitaient son corps, comme si chaque parcelle se réveillait après une longue hibernation. Elle ne sentait plus la douleur sous la plante de ses pieds, le point de côté sur ses hanches. Seulement le délicieux souvenir des doigts de Zach en elle, de sa bouche lui mordillant les seins, puis lui soufflant à l'oreille le secret d'Enoch, lui dévorant la peau à nouveau. La sensualité envoûtante de la voix de Zach.
Personne n'a jusqu'à présent entreaperçu cette vérité qui crève les yeux. C'est si simple pourtant. Il suffit de comparer les récits de Sumer et ceux de la Bible.
Comparer, docteur,
avait-elle répondu.
Comparer.
La vérité s'inscrit en négatif. Ce que la Bible ne dit pas, ce que ses silences insinuent. Zach s'était insinué, sans dire un mot de plus. La voix de Cécile déchira le silence, soudaine, à en réveiller les pierres. « Zach Ikabi, puisque nous disposons de 2 secondes de répit, c'est peut-être le bon moment pour reprendre notre conversation, non ? Nous nous étions arrêtés à la 3e bouteille de champagne, je crois. En quoi consiste-t-elle exactement cette comparaison fondamentale entre les récits de Sumer et ceux de la Bible ?» De surprise, Arsène trébucha dans les cailloux. « Il faut économiser notre souffle, » répondit sobrement Zach.
« Baratin !»
Droit devant eux, au-delà des frontières, le double sommet du Grand et du Petit Ararat barrait l'horizon. Cécile insista. « Si vous voulez que mes pauvres cuisses me portent jusqu'au sommet de votre montagne sacrée, il va falloir les motiver. » Zach soupira.
« Vous me feriez confiance ? Disons que j'accepte d'écouter votre plaidoirie.
Trop aimable. » Zach ne ralentit pas l'allure, mais scanda son récit comme un marcheur entonne une chanson pour rythmer son pas.
Comme je vous l'ai déjà dit, la Bible a repris point par point le plus vieux récit du monde dont on dispose d'une trace écrite, l'épopée sumérienne de Gilgamesh, des tablettes d'argile remontant au 19e siècle avant Jésus-Christ. Le déluge, l'arche qui vogue sur l'eau, la colombe, la parenté avec l'histoire de Noé est indéniable. Mais ce sont les différences entre les récits qui importent, pas les ressemblances. Pourquoi la Bible n'a-t-elle pas retenu certains éléments du récit sumérien ? Ainsi, dans le récit de Gilgamesh, la punition par le cataclysme n'est pas décidée par un dieu unique et tout-puissant, mais par une assemblée de divinités après de longs palabres. Je vais être plus précis, Cécile. À votre avis, dans la Bible, quel mot désigne Dieu ?
Elohim, répondit spontanément Arsène Pareia.
Cécile laissait la voix de Zach la bercer, mélange d'érudition et de fantasme.
Elohim, exact, professeur Pareia. Elohim est le pluriel d'Eloah, qui en hébreu signifie « celui qui vient du ciel ». Dans la Genèse, le pouvoir divin est donc très explicitement désigné par l'expression « ceux qui viennent du ciel ». Ne trouvez-vous pas diablement étrange de traduire le terme originel « Elohim », très proche du récit de Gilgamesh, par « Dieu unique » ?
Les pierres roulaient sous leurs pas. Les arguments de Zach troublaient Cécile. Une nouvelle fois, l'ironie lui parut la seule défense adaptée.
D'accord, Zach, nous sommes face à un problème de traduction. Le scribe sumérien sur sa tablette d'argile a oublié un accord. Il était loin de se douter qu'un S en moins provoquerait des superstitions délirantes 5 millénaires plus tard. Excellent exemple, docteur Ikabi. Je m'en servirai pour convaincre mes étudiants des conséquences potentielles d'une orthographe approximative.
Zach soupira. Arsène laissa échapper un rire discret. Cécile lissa en arrière ses cheveux encore humides.
Vous avez plus percutant, docteur Ikabi ?
J'ai.
Dans le récit sumérien, les dieux traitent les hommes en esclaves. Enfin, pour être exact, il y a débat entre ceux qui traitent les hommes en esclaves et ceux qui ont un peu de compassion. En tous les cas, à l'inverse de la Bible, jamais les hommes ne sont décrits comme créés à l'image de Dieu.
les mots dansaient.
Cécile repensait à ceux qui avaient précédé leurs ébats dans le Falcon 2000. Les extraits du livre d'Enoch pétillaient dans son cerveau comme autant de bulles de champagne.
« Je me souviens, ce vieil Enoch a fait les présentations. Certains dieux enseignaient les sciences aux hommes, d'autres s'accouplaient avec les femmes, d'autres encore s'offusquaient de telles pratiques. »
« Exactement, Cécile. Mais si on se concentre sur le thème du déluge, dans le récit de Gilgamesh, les dieux, ou les anges, ou Néphilim, comme vous voulez, condamnent les hommes à la destruction parce qu'ils n'obéissent plus, commencent même à se rebeller contre leur autorité. Mais il y a débat parmi les dieux. La décision du cataclysme est prise dans l'urgence. Les dieux ont pour seul objectif d'exterminer la race humaine, pas comme dans la Genèse, de la faire changer. Pour le dire autrement, il n'existe aucune morale dans le récit sumérien, à l'inverse de la Bible qui nous dit très explicitement « Dieu aime les hommes et les sauve d'eux-mêmes en les punissant ».
Il suivait maintenant un sentier qui serpentait entre des blocs calcaires dans une pente raide et poussiéreuse. La vallée de Makou, qui quelques minutes plus tôt se résumait à une cicatrice, se dévoilait un peu plus à chaque nouveau lacet. Une oasis espérée au fond d'un canyon aride. Cécile roulait des yeux incrédules.
« Très bien, Zach, je vous suis. »
Avec le temps, les vilains dieux sont devenus plus gentils dans le souvenir des hommes.
Mais j'ai du mal à comprendre en quoi cette nuance est importante.
Pas importante, Cécile. Capitale. Les auteurs des 11 premiers chapitres de la Bible ont conservé dans les récits sumériens les événements qui leur semblaient historiques. Ils se sont contentés de les adapter à une croyance monothéiste.
C'est pas moi qui le dis, Cécile. Tous les exégètes sont d'accord sur ce point.
Mais si l'on pousse le raisonnement jusqu'au bout, devant quelle évidence se retrouve-t-on ?
Un nouveau virage. Des reflets verts effilochaient l'océan gris. Zach enchaîna questions et réponses.
Une évidence historique ! Les religions monothéistes ont été créées dans un seul et unique but. Masquer une vérité antérieure.
Le rire de Cécile sonna faux.
Mon Dieu, Zach, quel scoop ! Les religions, rien que des mensonges. Moi qui hésitais à me convertir.
Zach plissa le front. Il jaugea la vallée iranienne, qu'il suivit du regard au-delà des frontières, jusqu'à ce qu'elle se perde en Turquie, dans les contreforts du massif de l'Ararat.
Je vais m'y prendre autrement pour vous faire comprendre. Qu'est-ce qu'adopter une religion, Cécile ?
C'est se soumettre à une puissance supérieure, n'est-ce pas ? Un dieu, ou plusieurs, peu importe. Le respecter, l'adorer. Il y a un terme pour cela. Vénérer, vous êtes d'accord ?
Cécile acquiesça. Ils accéléraient le pas sans s'en rendre compte. Arsène traînait quelques mètres derrière eux.
« Savez-vous ce que veut dire vénérer ?»« Eh bien, vénérer ne signifie pas adorer, mais travailler. Vénérer, au sens strict, c'est être esclave. »« Si vous voulez, mais... »
Zach s'enflammait.
« Cécile, que fait le gourou d'une secte ?»«
Il se fait passer pour un dieu. Il invente une superstition pour réduire les crédules en esclavage. C'est un stratagème vieux comme le monde. »
Dieu nous oblige à travailler pour lui ? Je comprends rien.
Double erreur grammaticale, Cécile. Erreur de temps, d'abord. Dieu nous obligea, avant le déluge. Erreur de sujet, ensuite. Les dieux, au pluriel, pas un seul.
Zach se tue enfin. Cécile ne trouva rien à répondre. Surprise. Vexée également. Elle n'avait pas aimé la fin, le ton doctoral de Zach. Double erreur grammaticale. Pour qui se prenait-il ? Elle ralentit l'allure pour laisser Arsène, toujours silencieux, revenir à sa hauteur. Zach était un indécrottable illuminé. Après tout, s'amusa-t-elle, c'est sans aucun doute cette douce folie qui faisait tout le charme de ce garçon qui marchait en cadence 2 mètres devant elle. Cette touchante folie douce. Et son joli cul aussi. Ils continuèrent sans échanger un autre mot. La pente, petit à petit, s'estompait. Les champs de pierre laissèrent la place à une steppe aride, puis à des premières étendues d'herbes folles. Makou se devinait au fond de la gorge, sous la forme d'une multitude de toits plats, blancs et carrés. Observé de la montagne, il ressemblait à un gigantesque chemin pavé construit dans le jardin d'un géant. Ils accéléraient, oubliant presque qu'ils n'avaient aucun plan, aucune stratégie. Ils aperçurent les premiers signes de vie, des sortes d'habitats troglodytes à flanc de montagne, quelques poteaux électriques ensuite, puis soudain, un immense champ de tournesol. Les milliers de fleurs jaunes tournées vers la Turquie réchauffèrent le cœur de Cécile. La première couleur digne de ce nom depuis près de 15 heures. Makou semblait endormi. La ville frontière se levait contre les montagnes alentour comme contre de gros édredons et sommeillait paresseusement sous le soleil. Ils dévalèrent les derniers mètres, passant devant des maisons isolées, simples cubes ocre empilés jusqu'à 4 étages.
« C'est calme ?»
glissa Cécile.
« Attendez de voir la route, » répondit Zach.
« En Iran, la vie se concentre le long de la route. Le coût de l'essence est ridicule. Il n'y a ici aucun bus, juste un convoi perpétuel de voitures bourrées à craquer. »
Zach disait vrai. Autant la ville somnolait, autant la nationale grouillait de camions, de voitures rafistolées, de taxis saïpa jaunes frôlant au bord de la route les vendeurs de légumes, de pastèques, de pièces détachées. Ils longèrent un rideau d'arbres sur ce qui ressemblait à un trottoir envahi d'herbe. De l'autre côté de la route, deux femmes voilées regardaient Cécile avec des yeux effarés. Instinctivement, la chercheuse croisa ses bras sur la dentelle de sa takshita rouge. Elle se sentait incroyablement ridicule.
« Suivez-moi !» ordonna Zach.
« Ne me dites pas que vous avez encore un plan !» s'écria Cécile. « Dans cette tenue, je ne vais pas faire 10 mètres de plus en liberté. Mon plan est simple. Direction les autorités iraniennes. On se fait connaître avant d'être accusé d'espionnage et oust, rapatriement à Téhéran à l'ambassade de France. »
Zach leva les yeux droit devant lui.
« Trop tard, Cécile. Nous devons aller au bout maintenant. La Turquie n'est qu'à 15 kilomètres. L'Ararat à moins de 50. Nous avons un devoir, arriver là-haut. Avant Cortès. Et surtout, Cécile. »
Au bord de la route, des hommes occupés à réparer une voiture se retournèrent vers la chercheuse habillée en princesse, interloquée. Elle pressa le pas, de plus en plus gênée.
« Et surtout, Cécile, vous l'avez promis. Promis à Ishak Pacha à une petite fille de 10 ans. »
Cécile sentait les dernières oasis de sa raison s'évaporer. Il n'y avait aucune issue à cette histoire de fou. Une histoire dont elle était l'actrice, et pas la moins timbrée. Elle s'était échappée d'un sérail déguisé en Scheherazade pour se retrouver à moitié nue dans la rue d'un bourg perdu au fond de l'Iran, afin de tenir sa promesse à une fillette torturée dans un cachot. Trouver les licornes. Démentiel.
« Et comment comptez-vous passer la frontière ?»
persifla-t-elle.
« Aucune idée. Il faudrait un petit coup de pouce du destin. »
« Formidable. »
Zach baissa le regard vers une sorte de parc sur le côté de la route. Sur de très grosses pierres rondes de 3 mètres de hauteur, on avait sculpté de grands personnages en tenue d'escalade.
« Un coup de pouce du destin ?» répéta Zach. « Ou un coup de pouce des Néphilim ?»
Son visage s'était illuminé, comme s'il avait aperçu des anges descendre sur la ligne de crête. Cécile scruta le parc. Éberluée, elle découvrit un homme d'une 30aine d'années, adossé à un vieux pick-up, lunettes de soleil sur le nez et cigarette roulée entre les lèvres. La scène était irréelle. L'Iranien agitait la main vers eux avec de grands sourires. Comme s'il les attendait. Mais il y avait plus stupéfiant encore. Le type devant elle ressemblait comme deux gouttes d'eau à Zaki Kabi.